France Musique.
France Musique. Les grands entretiens. Arnaud Merlin.
Je m'appelle Hugues Dufour. Je suis né le 28 septembre 1943 à Lyon. Et je suis compositeur. Et l'on me dit aussi philosophe.
C'est un cycle de quatre pièces qui ont été réunies sous ce titre générique. Il y a d'abord eu chronologiquement Le philosophe selon Rembrandt, et puis un peu plus tard La gondole sur la lagune d'après Guardi, Le déluge d'après Poussin et Les chasseurs dans la neige d'après Bruegel. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce rapport que vous avez à la peinture dans de très nombreuses œuvres de votre catalogue ?
Il faut se souvenir que j'ai fait beaucoup de philosophie dans ma vie et je continue d'en faire à 80 ans. Donc, c'est une discipline que je n'ai jamais, si vous voulez, ni abandonnée, ni traitée en amateur. Dans cette discipline, j'ai eu un maître marquant dont on ne parle pas assez, qui fut Henri Maldinet, qui était probablement l'un des plus grands esthéticiens du XXe siècle. Le rapport à la peinture était celui que nous inculquait Maldinet à travers les esthéticiens allemands, Hildebrandt, Riegel, Panofsky et tant d'autres.
Ça se manifeste de manière assez différente dans chaque œuvre. Oui. Peut-être, pour parler d'œuvres plus récentes, je pense à La Horde, selon Max Ernst, peut-être que là, il y a des choses techniques aussi. Peut-être qu'on pourrait gratter, et je prends le terme à dessein.
Alors, dans La Horde, oui, vous avez raison, mais La Horde résume une autre période de ma production qui commence aux alentours de 2005. Là, je me remets au questionnement informatique. Je réétudie la façon dont l'informatique a interprété l'organologie dont on lit les sons aujourd'hui, dont on peut les reproduire ou les produire à travers ce qu'on appelle les techniques avancées, advanced techniques.
Oui, bon. des modes de jeu très particuliers.
Des modes de jeu très particuliers qui étaient à l'époque des années 70, l'affaire d'une élite. Et tout cela s'est rationalisé grâce aux universités américaines. Il y a eu une avalanche de thèses, de travaux savants qui font le rapport, qui analysent les sons, etc. J'ai réappris ce métier de fond en comble. Et deux musiciens m'ont aidé à me recycler, à réapprendre le métier. Le premier est Dominique Delahoche et le second est Ivan Solano. Ce sont deux virtuoses. Et ils avaient relu, réinterprété leur instrument avec les techniques les plus pointues de l'informatique. Donc, nous avons travaillé ensemble. Ce fut une affaire de longue haleine. De longue haleine, j'ai d'épais cahiers. J'ai renouvelé mes techniques d'orchestre, mes techniques de musique de chambre. Il faut ajouter à cela l'influence prédominante de Cologne, d'Harry Vogt. J'ai eu pendant 30 ans un orchestre presque à disposition. Enfin, et j'ai pu faire des progrès. Voilà comment j'ai essayé de refaire finalement, reposer les bases de l'écriture musicale. La nouveauté absolue, mais conçue pour l'orchestre.
On parle de l'orchestre, vous avez beaucoup travaillé l'orchestration à votre manière. On dit que vous avez relu le traité de Rimsky à rebours ou à l'envers, dans une certaine manière. Mais il y a aussi un autre orchestrateur, auteur d'un traité, dont on parle moins, c'est Koechlin.
Et Koechlin avait tout vu.
C'est ça.
Alors, donc, il n'est pas simplement musicien, il est polytechnicien. Et donc, il aborde la musique, l'orchestration, dans... Je ne parle pas la vision de l'orchestre qu'il a, qui est une vision de musicien extrêmement originale, mais sa façon de poser un problème technique en musique est une manière de polytechnicien. J'ai tant de possibilités, par exemple, je vous donne tant d'instruments différents, faites-moi un accord homogène. Je vous donne maintenant, je redouble le nombre d'instruments à deux. Faites-moi un accord homogène, faites-moi un accord un peu distendu, hétérogène, faites-moi un accord très élargi et voyons les tessitures extrêmes. Maintenant, évidons l'accord, il n'y aura plus rien au milieu. Qu'est-ce que donne un tuba, une note très très grave avec des notes suraiguës, et en sorte que cela sonne tout de même bien et pas creux. Deux exemples, Berlioz et Bruckner, et il les donne. Tous ces exemples sont des exemples issus de la combinatoire. Bon, ce qu'on apprend à Polytechnique, c'est la combinatoire, les sciences. Donc je reconnais ça assez vite, puisque ce sont les bouquins de Dagonier sur la minéralogie, etc. Bon, le tableau des éléments chimiques. Voilà comment il pense la technique de l'orchestre. Il avait une amplitude de vue, une largeur de vue et une pénétration, un sens de l'orchestre que je n'ai trouvé nulle part ailleurs.
Mot qu'on n'a pas encore abordé, on a parlé du timbre, on n'a pas parlé du mot couleur. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on a déjà parlé de peinture. Quand vous réalisez un ensemble de pièces autour de la peinture de Tiepolo, je pense à l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, qui font partie d'un même ensemble, vous dites la couleur devient le vrai moyen du musicien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est, là encore, je reviens à une question de transposition d'une expression artistique à une autre. Quand vous parlez de la lumière blafarde et des nuées de soufre que vous remarquez dans cet escalier de la résidence de Würzburg où se trouve ces magnifiques Tiepolo, est-ce que l'on peut dire que c'est ça, pour vous la couleur?
Alors, la couleur, pour obtenir une couleur, la couleur, c'est le terme de toutes les formalismes qui sous-tendent cette production de la couleur et qui, eux, ne s'entendent pas. Donc, quels sont ces formalismes? Il y a toutes ces sonorités qui diffractent le son traditionnel de l'instrument, donc, et qui créent ces sonorités dites cassées, dites multiphoniques, dites etc. Bon, dites avancées, qui consistent à aller très loin dans une sonorité, à la diffracter dans l'instrument et à l'entendre vraiment. Dans la horde, par exemple, je fais faire quasiment des bruits colorés aux musiciens, souvent aux cordes. Il se trouve que ces musiciens, qui sont à Genève, m'ont demandé, oui, mais ces bruits, est-ce qu'on peut les entendre? Est-ce que vous pouvez nous mettre les notes sous-jacentes, les extrêmes graves qui ne s'entendront jamais, les extrêmes aigus qui ne s'entendent pas, puisque pour l'oreille, ce n'est qu'un bruit bien défini, coloré. Mais pour refaire ce bruit exactement, il nous faut le contrôle mental des notes. Il se trouve que j'avais travaillé, j'étais parti de là. Donc, j'ai pu leur donner, l'ordinateur, évidemment, fait le travail, car l'oreille ne peut pas faire ce travail. Mais le cerveau humain est capable de transposer analogiquement, voyant ces notes, ils étaient capables de reconstituer ces quasi-bruits, chointements, donc catégories sonores qui n'ont pas beaucoup même de vocabulaire adéquat. Alors, ça, c'était, par exemple, la toute fin. J'ai condensé, si vous voulez, ce type de recherche dans la horde, qui est un art poétique de ces 20 dernières années. Mais le gros du travail, c'est fait soit à l'orchestre, ce qui est une autre chose, soit dans cet Tiepolo, dans ces quatre continents, où j'ai travaillé, mais à l'extrême et à l'infini, effectivement, le monde des possibles sonores, mais vous ne pouvez pas le faire avec un pot de couleurs. Vous ne pouvez le faire qu'avec des formalismes qui différencient à l'infini. Ce sont donc des techniques de différenciation, des techniques d'interférence, des techniques d'intrication. J'emploie ces mots à dessein, car ce sont les mots qui, aujourd'hui, sont employés pour qualifier, aujourd'hui même, sont employés pour qualifier les problèmes de la physique quantique.
France Musique, les grands entretiens de Hugues Dufour.
À propos de réinvention de l'écriture, est-ce que quand vous avez retravaillé avec les percussions de Strasbourg il y a une dizaine d'années pour une grande œuvre qui s'intitule Burning Bright, vous avez repensé à ce que vous aviez à l'époque conçu au moment de Ervon et quelle modification dans le travail que vous avez fait avec les percussions de Strasbourg vous pourriez caractériser en quelques mots, puisque à 40 ans d'écart, ce sont deux grandes partitions pour le même instrumentarium. Un instrumentarium un peu plus restreint dans Burning Bright que dans Erevon, mais tout de même.
Oui, c'est même encore plus simple. Euh, lorsqu'ils m'ont demandé d'écrire une pièce pour le 50e anniversaire des percussions, mais j'ai hésité, puis j'ai dit oui à une condition, c'est qu'il n'y ait pas une seule redite. Donc je veux un matériau absolument nouveau, vous allez m'aider à le trouver. Je veux faire l'inventaire de tous vos instruments nouveaux, je ne veux que des ressources nouvelles, je veux un son nouveau et des problématiques, même temporelles, d'écriture nouvelles. Sinon, ça ne vaut pas le coup, ce sera une redite. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis rendu souvent à Strasbourg. Nous avons enregistré, j'ai eu des échantillons, on a différencié, mais ça, c'est un travail commun, collectif. Alors, pour répondre exactement à votre question, en quelques mots, Erwan était un monde utopique. Enfin, mais je songeais à l'avenir.
On était dans les années 70, c'était une époque de conquête.
Les conquêtes. Oui. Bernine Brice, c'est tout l'inverse, c'est le passé, mais pas du tout un passé mélancolique, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis rendu compte que plus nous progressions dans la percussion, et moins il fallait compter sur les ressources dites industrielles qui étaient banales. Donc, je suis allé chercher dans l'appareil des accessoires, et l'accessoire, c'est quelque chose qui n'a comme on dit, ça ne peut entrer en relation avec rien. Un accessoire apparaît et disparaît, change tout, change le panorama, mais ne communique pas avec le reste. Et pourquoi ? Alors, je me suis intéressé véritablement à l'histoire de l'accessoire, je ne vais pas faire un cours là, mais tous les accessoires qui sont dans le magasin des accessoires d'aujourd'hui sont des instruments soit maudits, soit sacrés, des époques antérieures, Moyen-Âge, Antiquité, Haute Antiquité ou Préhistoire. Le sistre, par exemple, remonte à la Préhistoire. Bref, et alors, ce qu'il y a de très frappant, c'est que ce sont des instruments qui expriment à la fois le sacré et la malédiction. Et ce sont des raisons pour lesquelles ils sont extrêmement prégnants, ils s'imposent, ils apparaissent, ils disparaissent, ils ne disent rien. Voilà pourquoi Burning Bright est en partie, je n'ai pas fait que ça, mais centré sur l'apparition des accessoires. Et alors, eh bien, ces accessoires, il leur faut une aura, il faut justement déplier les choses, il faut donner un sens, mais c'est un sens qui sera toujours énigmatique, rattaché à un passé improbable. On peut auréoler ce son, accompagner sa disparition, créer des transitions de durée, ce qui nous fait méditer sur les passages du temps, etc. Mais voilà, j'étais loin d'Erwan.
Plusieurs reprises que vous ne pouviez faire que de la musique et pas de la philosophie en termes d'aboutissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous n'auriez pas été un philosophe à 100% faisant de la musique à côté ?
D'abord, je ne supporte pas les amateurs. Donc, les musiciens qui font de la philosophie, c'est quelque chose d'éprouvant pour moi. Les philosophes qui font de la musique, c'est quelque chose de dérisoire. Donc, non, c'est aussi une question d'engagement, de personnalité, de définition de soi. Bon, j'ai fait de la musique. Il est vrai qu'on peut toujours m'opposer que j'ai gagné ma vie grâce à la philosophie. Et au fond, je ne le regrette pas, car ce milieu m'a donné non seulement de quoi vivre, mais une assise que je n'aurais peut-être pas eu seulement grâce ou avec la musique. Une assise, c'est la conscience du temps long, des problèmes de grande échelle.
Des outils de spéculation.
Ah oui, et la formation dite académique et principalement épistémologique, bon, qui permet d'aborder un problème musical. Mais Kuklin avait fait ça en son temps. Ça va beaucoup plus vite.
La spéculation scientifique, c'est aussi une manière de développer l'imaginaire.
Oui, absolument. Par exemple, j'ai enseigné à l'université, donc, et j'ai déploré avant 70 que nous n'ayons pas de cosmologie. Nous n'avions qu'une cosmologie virtuelle, mais rien qui soit l'équivalent de Newton qui permette de reconstituer, de penser le monde. Eh bien, depuis la conquête de la Lune et à aujourd'hui, nous avons conquis toutes les représentations, aussi inquiétantes soient-elles, mais nous avons un nouveau cosmos. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour la musique. Ce n'est pas pour rien que les anciens associaient la musique à la cosmologie. Il n'y a que Xenakis qui se soit associé de la chose. Mais depuis les prix Nobel, les Monod, le Wolf, on a conquis l'ADN, les fondements du monde de la vie. Nous savons enfin ce que c'est. Et pour finir, le monde freudien qui a été peu à peu assimilé, bon, le fond de l'humanité, le fond sans fond de l'humanité, le caractère abyssal de l'humanité a été sondé. Et donc la musique en prend un sens nouveau, parce que la fonction de la musique, c'est d'apprendre à l'humanité à s'humaniser et à en sortir.
Vous avez dit une fois que, à propos de cela justement, que peut-être la musique pouvait nous aider à entreapercevoir les abîmes. Alors, c'est quels abîmes ?
Ce sont les abîmes insondables de la préhistoire. Ce sont les abîmes de l'anthropophagie, du cannibalisme, des mondes que nous préférons oublier aujourd'hui, mais qu'est-ce qui nous garantit que nous ne ressemblerons pas, d'ailleurs l'actualité nous le prouve. Donc la musique, un des processus par excellence de civilisation, elle ne passe pas par le langage, elle est donc à sa manière universelle, elle façonne une sensibilité, mais c'est au créateur de ne pas la constituer comme régressive, cette sensibilité. Et donc, dans la création musicale, vous avez tous les éléments qui permettent ou qui incitent l'humanité à se tenir debout.
Thank you.
C'est avec cet extrait de Voyage par-delà les fleuves et les monts, Duc Dufour, par l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg, dirigé par Pierre-André Valade, que se referme cette série de grands entretiens Duc Dufour, proposée par Arnaud Merlin. Réalisation Françoise Cordet, prise de son Romain Luquiens, mixage Cédric Châtelus, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Une série disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.